Voici le journal de Kathleen Comte. Bonjour Kathleen.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, la gauche plus divisée que jamais.
Et pourtant la présidentielle approche, alors pour tenter de renouer le dialogue, une réunion est prévue ce matin. Plusieurs figures de la gauche seront présentes, dont votre invité, Éric Delvaux.
Et oui, Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération S. Il est aussi candidat sur la liste régionale de l'écologiste Julien Bayou en Ile-de-France. Il est donc favorable à cette union des gauches. Les autres titres, Kathleen ?
Le vaccin AstraZeneca traîne une mauvaise réputation et les nouveaux cas de thrombose risquent de ne rien arranger. Pourtant, selon un médecin, il ne faut pas s'alarmer, le risque reste très faible, vous l'entendrez. Après des semaines d'examen à l'Assemblée nationale, que reste-t-il du projet de loi climat ? Habitat, transport, repas végétariens, on fait le point dans ce journal.
France Inter. Avec donc cette gauche qui se mobilise avant la présidentielle.
Avec à peine 30% des intentions de vote, la gauche a tout intérêt à agir si elle veut avoir une chance. Après les polémiques du mois de mars, les leaders jouent gros ce matin. Yael Gauze, une réunion est prévue à 10h dans le 19e arrondissement de Paris. Seront présents Anne Hidalgo, Olivier Faure ou encore le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou.
En mars, l'image renvoyée est déplorable. On s'envoie de l'islamo-gauchisme à la figure, on s'écharpe sur les réunions non mixtes. Après 15 jours de polémique, Yannick Jadot, écœuré, dit stop.
Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table, qu'on se voit, qu'on se parle.
Et au PS, Olivier Faure saisit la balle au bon, c'est sa stratégie depuis le début, la social-écologie, un candidat commun, même s'il faut à la fin se ranger derrière un verre.
Il va falloir faire un effort. Pour l'instant, personne n'est vraiment meilleur. Pour l'instant, on est tous plutôt mauvais.
Samedi dernier, c'est Benoît Hamon qui confirme sa venue.
Je pense qu'il serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler.
Puis Anne Hidalgo, jeudi, sur France 2.
Je serai à cette réunion, je pense que c'est très important, évidemment, que l'on puisse se rassembler.
Converger sur le fond, trouver les modalités d'une candidature de rassemblement, pas si vite, répondent les insoumis. Depuis la Bolivie, Jean-Luc Mélenchon veille au grain. Ses troupes négocieront un simple pacte de non-agression. Le député Adrien Quatennens était jeudi sur Inter.
Le cœur de la solution, c'est ces millions de dégoûtés qu'il faut ramener à la politique. La question de l'unité n'est pas le propulseur premier pour faire venir les gens qui se tiennent à l'écart.
La gauche ou la malédiction des trois tiers, PS, Verts, Insoumis, personne n'écrase vraiment le match. Dans l'hôtel où ils se réunissent tout à l'heure, la distanciation sera de rigueur, geste barrière. Mais main tendue, Arnaud Montebourg, grand absent, préfère attendre avant de la saisir.
Deux semaines après le début du troisième confinement, les chiffres semblent se stabiliser en France. Mais la troisième vague est loin d'être terminée. Ce sont les mots de Jean Castex en déplacement hier à Caen. Il faut dire que le plateau est toujours haut. 5900 personnes sont en réanimation. Malgré cette accalmie en demi-teinte, le gouvernement maintient son objectif de rouvrir certaines terrasses et certains lieux de culture à la mi-mai. Concernant la vaccination, un peu plus de 12 millions de Français ont reçu au moins une première dose.
Quelques nouveaux cas de thrombose avec le vaccin AstraZeneca.
L'agence de sécurité du médicament parle de 9 nouveaux cas de thrombose atypique. Mais ce qui inquiète cette fois l'agence, c'est surtout le profil des personnes concernées. Il ne s'agit plus de femmes de moins de 55 ans. Désormais, les patients ont en moyenne 62 ans et 5 sont des hommes. L'agence française a donc remonté ces cas à l'agence européenne. Mais pour autant, il ne faut pas s'alarmer selon Mathieu Molimard, chef du service pharmacologie au CHU de Bordeaux.
D'abord, il y a ce qu'on appelle le biais de notoriété, c'est-à-dire qu'on a tellement parlé des thromboses que toute thrombose qui survient maintenant est déclarée en pharmacovigilance, donc on augmente la notification. Après, ce risque reste très faible, puisqu'on est de l'ordre et on reste de l'ordre de 1 cas pour 100 000 patients traités. Donc, si vous voulez, c'est un risque qui est grave, qui pose problème, mais c'est pour ça qu'on a réservé ce vaccin aux patients de plus de 55 ans, c'est que parmi les 100 000 morts que l'on vient malheureusement de noter en France, 95 000 sont des patients de plus de 55 ans. Donc effectivement, prendre un risque de 1 sur 100 000 face à des gens qui ont un risque de mourir du Covid de 1% ou 1 pour 1000, ça reste encore avec un bénéfice risque qui est favorable.
Pour rappel, en tout, depuis le début de la vaccination en France, 23 personnes ont eu des problèmes similaires liés à ce vaccin, 8 en sont mortes. Et qu'en est-il du vaccin Johnson & Johnson ? L'EMA, l'Agence européenne du médicament, donnera son avis mardi. Pour le moment, l'utilisation de ce vaccin est suspendue. suspendue aux États-Unis et en Europe en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. On en sait un peu plus sur l'affaire de la petite Mia. L'enfant de 8 ans a été enlevé à la demande de sa mère qui n'en avait plus la garde. Le procureur de la République d'Épinal, dans les Vosges, a tenu une conférence de presse hier. 4 hommes, dont les 3 ravisseurs présumés, sont en garde à vue. Selon le procureur, on ne peut pas exclure que Mia et sa mère, toujours introuvables, aient pu quitter la France.
À l'Assemblée nationale, c'est le dernier jour d'examen de la loi climat.
Oui, après 3 semaines d'examen, les députés doivent boucler en première lecture du projet de la loi climat et résilience dans la journée. Que restera-t-il de cette loi issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Pas grand-chose pour certains députés. Certaines ONG parlent d'occasion manquée. Pour le gouvernement, c'est un tournant. Célia Quiret, même si certains parlent de petite loi, il y a quand même quelques avancées.
Dans le domaine de l'habitat, d'abord, les logements très mal isolés seront interdits progressivement à la location à partir de 2025. Plus de 4 millions de logements sont concernés. Voilà une avancée majeure pour le gouvernement, même si elle suppose que les locataires aillent en justice s'ils estiment que leur logement n'est pas aux normes. Dans les transports, 3 lignes d'avion dont Paris-Bordeaux n'existeront plus. Les voitures neuves les plus polluantes seront interdites à la vente, comme tous les véhicules thermiques neufs, bus aux poids lourds à partir de 2040. Finissent aussi les grands centres commerciaux de plus de 10 000 m², même si les plateformes de e-commerce pourront toujours s'implanter. Sur les écrans, il n'y aura plus de pub pour les énergies fossiles, mais il y en aura toujours pour les biens ou services polluants, comme les voitures justement. Cette loi crée un carbon score pour permettre aux consommateurs de connaître le bilan de ses vêtements. Mais dans cette loi, beaucoup de propositions des citoyens ont été amoindries, décalées dans le temps ou laissées à la bonne volonté des collectivités. Exemple, les cantines. Les mairies pourront proposer, si elles le souhaitent, un menu végétarien au choix chaque jour. Pas une révolution, mais une avancée concrète, pas si simple à faire accepter, comme d'ailleurs l'ensemble de la loi.
Le Royaume-Uni s'apprête à enterrer son prince.
La reine Elisabeth II va dire adieu à celui qui a été son mari pendant plus de 70 ans. Le prince Philippe sera enterré aujourd'hui dans le parc du château de Windsor à partir de 15h, heure française. Seule la famille proche sera présente, alors forcément les Britanniques sont déçus, comme Marie, une londonienne qui travaille à l'université du King's College.
C'est une journée très triste et c'est important de lui rendre hommage, donc je vais suivre la cérémonie. Mais c'est vraiment dommage que l'on ne puisse pas participer aux funérailles. Je suis sûre que des milliers de personnes l'auraient voulu. Mes amis, ma famille et moi-même aurions aimé participer. Personnellement, je trouve du réconfort dans le fait qu'il a eu une très belle vie. 99 ans, c'est un bel âge et il a réalisé beaucoup de choses de son vivant, bien plus que la plupart des gens. Pour la reine, ce doit être difficile, comme toutes les veuves à cet âge-là. Et bien qu'il ait parfois été controversé, je suis certaine qu'elle apprécie de voir que beaucoup l'aimaient. Même si, pour ma part, je ne le connaissais pas bien. En tant que jeune londonienne d'une vingtaine d'années, j'ai beaucoup plus entendu parler de ses petits-enfants qui ont dépassé sa notoriété.
En tennis, à la surprise générale, Nadal s'est fait sortir hier. L'Espagnol, 3e mondial, a été battu par Andrei Rublev, 8e en quart de finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Score final 6-2, 4-6, 6-2. Raphaël Nadal n'était pas au meilleur de sa forme et a commis de nombreuses fautes. En football, le leader de Ligue 1, Lille, a fait match nul hier soir contre Montpellier, 1 partout. Le LOSC est toujours premier avec 70 points mais perd son avance sur le PSG, 2e du classement avec 66 points, les Parisiens qui affronteront Saint-Étienne demain.
Et puis une question en sport, faut-il vacciner les sportifs qui vont se rendre cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo?
Alors que le Japon subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus, la question se pose. Tandis que plusieurs pays semblent favorables à cette option, en France, rien n'a encore été décidé. La question divise, y compris chez les sportifs. Jérôme Val, à moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture, il y a urgence à décider.
Au ministère des Sports, on assure que la concertation est en marche et qu'on recense les besoins des fédérations, des athlètes et de leurs entraîneurs. Sauf que le temps presse, reconnaît Roxana Maracineanu, la ministre déléguée des Sports.
On sait qu'il faudra pas trop tarder, c'est-à-dire qu'au-delà d'un mois et demi, ce sera trop tard parce que beaucoup de délégations vont partir en stage. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec le ministère de la Santé pour voir quel vaccin, quand ou comment.
La question est délicate. Il ne faudrait pas, quel que soit l'enjeu, que les sportifs apparaissent comme des privilégiés. Mélina Robert-Michaud en lice pour le titre olympique au lancer du disque.
Nous, athlètes en bonne santé, on ne va pas pour l'instant prendre la place de personnes qui en ont le plus besoin. Voilà, on sait que dans l'avenir proche, ça va pouvoir commencer à se décanter un petit peu pour de plus en plus de personnes.
C'est aussi un choix personnel. Le nageur Florent Manodou est en pleine réflexion.
Je ne suis pas un grand fan de vaccins. Maintenant, avoir le Covid un mois ou deux semaines avant les Jeux, je pense que c'est une mauvaise solution aussi, donc il faut peser pour et contre.
Car c'est la hantise des sportifs que le Covid ruine tous les efforts consentis pour décrocher leur place au Japon. Reste une difficulté. Sur les presque 400 athlètes français qui doivent se rendre à Tokyo, beaucoup ne seront qualifiés qu'en juin, trop tard pour être vaccinés.
Le gouvernement promet de son côté un plan dans les prochaines semaines. Et puis en judo, les championnats d'Europe se poursuivent jusqu'à demain. L'événement de ce samedi, c'est la confrontation chez les femmes en moins de 70 kilos. À la clé, une place pour les JO de Tokyo, rien que ça. Le seul ticket qui n'est pas encore attribué dans la sélection féminine.
C'était le journal de Kathleen Comte. À tout à l'heure. Le temps de ce samedi.
La météo avec les meubles Gautier. Imaginés, dessinés et fabriqués en France pour durer. Intemporel et élégant. À retrouver en magasin et sur gautier.fr.
Avec du soleil pour la plupart des régions, Jean-Michel Gounaski.
Oui, effectivement, aujourd'hui, donc un temps ensoleillé en perspective, sauf de l'est des Pyrénées au pourtour méditerranéen jusqu'au Dauphiné et à l'Auvergne, où l'ambiance instable va s'accompagner d'averses et d'orages, avec même de la neige des 500 mètres d'altitude ce matin, 1000 mètres cet après-midi. Et puis, en seconde partie de journée, ce temps instable va commencer à refluer vers la Méditerranée, mais survoler encore les Pyrénées orientales, les Côtes d'Aroise et l'ouest de la Corse, avec un sera une tramontane vers 70 km à l'heure et près de la Manche. Le vent de secteur nord-est sera quand même assez désagréable passé la mi-journée. Dans des températures maximales de 15 à 17 degrés au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble, de 10 à 13 plus au nord. Notez que demain, les valeurs vont commencer à remonter la pente et devenir partout printanières en début de semaine.
Jean-Michel Gounaski, Météo France.